1 Épître à Timothée, chapitre 6, nous relirons à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Or, la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs.
La dernière fois, nous avons étudié en particulier les versets 3 et 4, et le début du verset 4. L'apôtre, dans cet épître, a enseigné beaucoup de choses, jusque-là pour que l'ordre selon Dieu soit maintenu dans sa maison et que la doctrine ne soit pas blasphémée. Verset 2. Il enjoint à Timothée, enseigne ces choses et exhorte. Mais si quelqu'un enseigne autrement, au verset 3, nous avons attiré l'attention sur la curiosité intellectuelle que nous pourrions avoir en lisant la parole, ou l'étude analytique de celle-ci. Cette étude, cette sorte d'étude, n'amène à n'être convaincu de rien et de ne rien savoir. C'est en opposition avec la doctrine qui est selon la piété. Le chrétien vivant selon la piété, ayant un lien vivant avec le Seigneur Jésus, apprend par la parole à le connaître personnellement. Si quelqu'un enseigne autrement, il ne se range pas aux saines paroles. Nous avons rappelé, range pas, c'est comme les combattants de l'Ancien Testament. Chacun avait sa place enseignée par les saines paroles et devait la tenir. Les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ donnent la vie et guérissent. Nous avons rappelé quelles sont ces paroles. Ces paroles ont l'autorité de Dieu car elles viennent de lui. Dans Jean 7, nous le voyons. Dans Luc 4, nous voyons que c'est des paroles de grâce, verset 22. Dans Jean 6, au verset 63, nous voyons que ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Esprit et vie et qui ne viennent pas de la chair. Il enseigne autrement, il ne se range pas aux saines paroles, il est enflé d'orgueil. Au verset 4, nous avons rappelé que c'est la faute du diable, c'est vouloir être comme Dieu, c'est penser que mon enseignement, qui vient de l'esprit corrompu de l'homme, est au moins aussi bien que celui qui vient de Dieu. Cela commence dans le cœur, puis finit par se voir extérieurement, enflé d'orgueil. Nous avons parlé rapidement des conséquences, versets 4 et 5. Mauvais soupçons, disputes, cela amène du désordre dans l'assemblée de Dieu.
Nous pourrions rappeler quelques paroles du Seigneur qui qui concerne les faux docteurs et les faux enseignants. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 4 et 5. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles, le bon berger, et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Dans ce verset 5 de Jean 10, le Seigneur, au fond, il nous rappelle comment nous devons nous conduire en présence de ceux qui n'apportent pas ces saines paroles, la doctrine de Christ, les saines paroles de notre Seigneur. Et nous avons lu quelque chose dans 1 Timothée que ces doctrines donc sont dangereuses. Et elles peuvent être présentées d'une manière très attrayante et par des paroles qui peuvent être habilement présentées. Et le Seigneur ne nous dit pas d'aller voir, de nous informer de ces faux enseignements. Et il nous dit, au verset 5, « Elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui. » Ce n'est pas des paroles des frères, c'est les paroles mêmes du Seigneur. Et il dit expressément, « Elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront de lui. » Nous parlons quelquefois de la séparation ou des fréquentations. Bien, si nous lisons et nous comprenons bien les paroles de notre Seigneur, eh bien, je crois que la réponse à une question éventuelle est bien dans ce passage de l'Écriture. Elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui. Nous avons chanté dans notre cantique tout à l'heure des paroles qui semblent être inspirées en particulier du verset 6 de 1 Timothée. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. Et nous pourrions mettre en parallèle un autre verset de l'Écriture qui peut nous aider à bien comprendre, c'est dans les Philippiens. C'est dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Et cette expression magnifique, c'est à cause du Christ. Et dans ce troisième chapitre des Philippiens, nous voyons que ce changement chez Paul et les sources avant sa conversion, les sources de son gain, nous pourrions dire, étaient les honneurs autour de son nom, son zèle, son zèle contre l'Assemblée, son savoir, sans doute sa moralité. Eh bien, toutes ces choses, eh bien, dans son esprit, avaient radicalement changé. Et nous voyons que, au fond, une conversion, eh bien, c'est une révolution intérieure qui est complète. Et donc, ces choses dont il se glorifiait, eh bien, elles étaient devenues pour lui une perte. Je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Et ces choses étaient devenues, il nous est dit, comme des ordures. Et ce qui est remarquable dans ce passage, c'est que il ne parle pas des péchés, mais des choses qui pouvaient être sans doute estimées à bon droit dans le monde. Et donc nous voyons que Paul nous dit que son courant de pensée dans son esprit a changé complètement. Et il nous explique pourquoi. Eh bien, ses pensées avaient changé parce qu'il avait rencontré Christ. Et il nous dit, au fond, dans les versets suivants, qu'est-ce qu'il avait trouvé en Christ. Et donc, les gains qu'il avait pu avoir du temps où il n'était pas converti, eh bien, à la lumière de Christ, en comparaison avec Christ, eh bien, c'était rien, c'était des ordures. Et il nous explique donc, dans ce passage des Philippiens, il désirait être dépouillé ou vidé de tout ce qui n'était pas Christ. Et il voulait chercher Christ, aller vers lui, le connaître. Et donc, nous voyons, si nous nous tournons vers la première épître à Timothée, que pour ces hommes, ces faux enseignants, eh bien, les richesses, l'argent, eh bien, ça peut être un gain pour eux. Mais l'apôtre, il dit, mais non. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. Et donc, un chrétien, normalement, eh bien, ses pensées ont radicalement changé par rapport à tout ce qui était avant sa conversion. Et maintenant, et l'exemple de Paul, de l'apôtre Paul, et qui est présenté dans l'Écriture, un changement radical intérieur, ses pensées étaient tournées vers Christ et il désirait vivre pour Christ. Et donc nous voyons dans 1 Timothée que ces personnes, ces faux enseignants et peut-être ceux qu'ils entraînaient, eh bien c'était les richesses, c'était l'argent qu'ils avaient devant eux. Et donc l'apôtre nous dit, bien, c'est pas ça le vrai gain pour vous. Eh bien, c'est la piété, votre relation avec le Seigneur. C'est ça le vrai gain de la vie du chrétien. Et aussi le contentement. Le contentement, connaître Christ et ce qu'il nous donne aujourd'hui, les uns, les autres, dans les situations que nous pouvons connaître. Eh bien, voilà la grande question qui nous est expliquée dans ce verset. La piété, notre relation intime avec Christ, avec le contentement de ce qu'il nous donne présentement, eh bien voilà, c'est cela un grand gain.
Michel a évoqué quelques éléments qui peuvent donner occasion à la chair de s'exprimer pour dire que c'est des éléments précieux pour Dieu. Je vais succinctement lire quelques passages. Le premier dans 2 Timothée au chapitre 3, au verset 12. On vient toujours avec la piété et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Et quand on lit au chapitre 73 des psaumes, ce psaume, nous voyons au chapitre 73, voilà. Le verset 12 et 13, « Voici, ceux-ci sont des méchants et ils prospèrent dans le monde. Ils augmentent leur richesse. » Verset 13, « Certainement, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » En comparant, on voit que pour cette expérience d'Azaph, c'était aussi comme une sécurité de se dire que si je suis pieux, eh bien je ne serai pas sujet aux épreuves, aux manques ou aux difficultés. Alors que le chapitre de 2 Timothée nous montre le contraire, que c'est plutôt même, ça peut faire partie intégrante de la vie de piété que d'être objet de souffrance, peut-être même de manque de, pour ce cas d'Azaph, de prospérité, mais en comparaison encore une fois avec ceux du monde. Et combien pour le croyant, cela aussi, on l'a déjà évoqué, c'est encore pour souligner cela, peut être un piège que de se comparer à ceux du monde pour apprécier la valeur de sa marche. Et on a encore un peu ce passage dans Job qu'on a un peu retrouvé aussi quand Tsophar au chapitre 11 prend, bon, on ne pourra pas tout lire, mais c'est un peu cette pensée. On lira juste au verset 14 et 15. Si tu éloignes l'iniquité qui est dans ta main et que tu ne laisses pas l'injustice demeurer dans tes tentes, alors tu lèveras ta face sans tâche, tu seras ferme et tu ne craindras pas. C'était aussi un peu comme cette idée, eh bien, que si tu as Dieu de ton côté, eh bien, tu n'auras pas des épreuves ou tu n'auras pas des difficultés. Mais le chapitre qui nous sont donnés d'étudier encore une fois dans ce chapitre 6 de 1 Timothée, ce verset nous montre que effectivement la piété avec le contentement est un grand gain. Et Michel l'a déjà dit, on prend ce que Dieu nous donne comme étant pour nous, pour notre bien et pour sa gloire.
On peut remarquer qu'à la fin du verset 5 et au début du verset 6, on a ce mot piété qui apparaît deux fois, mais dans un contexte très différent. Et quelque part, ça interroge ceux dont il est question au verset 5, que savent-ils au fond de la piété? Est-ce que ce mot de piété, c'est le même mot, mais est-ce qu'il a le même sens pour ces personnes-là, s'ils estiment que la piété est une source de gain? Inversement, au verset 6, c'est la piété elle-même qui est vue comme associé au contentement et comme étant un grand gain. Et si on va un tout petit peu plus loin, déjà un peu en avance, au verset 11, quand Paul s'adresse de nouveau à Timothée directement, « Fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. » On a la piété qui se retrouve là, présentée comme environnée de tous ces caractères qu'on retrouve comme faisant partie du fruit de l'esprit dans Galates 5. Alors, la piété source de gain, si je peux dire les choses comme ça, ça sent l'hypocrisie. La piété n'est qu'un prétexte, celle qui est exprimée là. Alors qu'au contraire, dans ce verset 6, c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose qui est à considérer dans la pleine lumière de Dieu, mais dans une lumière qui n'est plus cette lumière qui met à nu le péché. C'est la lumière qui rassure, c'est la lumière qui encourage, qui soutient. C'est cette piété, c'est dans ce cadre-là que cette piété du verset 6, associée au contentement, devient un grand gain. C'est un roc sur lequel on s'appuie, cette relation avec Dieu qu'elle exprime. Cette relation tissée, entretenue avec Dieu, qui laisse de côté les envies d'autre chose. Le contentement, ça vient en contraste avec le désir, la convoitise, qui prend, qui tient. Non, il y a là quelque chose, dans cette piété-là, qui est du verset 6, quelque chose de paisible, quelque chose de ferme, quelque chose où tout est en pleine lumière de Dieu et on peut goûter à ce contentement ou l'esprit content. Toutes choses sont bien. Je pense à, ça me vient à l'esprit, ce passage du deuxième livre des Rois. La femme sunamite, je ne sais pas si je trouve rapidement le passage, chapitre 4, chapitre 4, verset 26, au milieu du verset, quand Élisée l'interroge, « Tout va-t-il bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien ?» Elle dit « Bien ». Tout allait mal, dans un sens. L'enfant qu'elle n'avait pas osé demander à Dieu, que Dieu lui a donné, ben il n'est plus là, il ne vit plus. Et pourtant, que dit-elle? Elle dit « Bien ». Oui, c'était le serviteur qui lui demandait, le jeune homme à qui elle répondait ça. Tout va bien. Tout est entre les mains de Dieu. De quoi je devrais m'inquiéter? Oui, il y a quelque chose qui pèse, mais tout va bien. Cette piété avec le contentement, c'est l'acceptation des choses telles que Dieu nous les donne. Et c'est quelque chose que ne peut pas aborder pour une autre personne. C'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose que nous ne l'apprenons pas dans un livre, nous l'apprenons dans la vie de tous les jours, dans la relation de tous les jours, dans les choses du quotidien telles que Dieu les donne, que voilà, tout est clair devant Dieu, ce qu'il donne, c'est bien.
Nous pourrions ajouter... dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, toujours les saines paroles de Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 31. « Ne soyez donc pas en souci, disant, « Que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus ?» Car les nations recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et suite à ce qui nous a été dit, pouvons lire aussi quelque chose dans l'Épître aux Philippiens encore. Il nous a été dit que c'est quelque chose qu'on apprend. Le contentement, c'est quelque chose sans doute que nous avons à apprendre. Philippiens chapitre 4, verset 11. Car moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné, aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Et au verset 13, nous voyons au fond de qui l'apôtre Paul tirait toute sa force dans ces circonstances. Je puis toute chose en celui qui me fortifie. En relation aussi avec l'apôtre Paul, on pourrait lire quelque chose dans la deuxième épître à Timothée sur le même sujet. De Timothée 4, verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé en Troade chez Carpus, et les livres, spécialement les parchemins. L'apôtre Paul était en prison. Il n'avait même pas de quoi se vêtir, semble-t-il. Et quelle leçon pour lui et pour nous. Nous le voyons qu'il s'adresse à Timothée. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé en Troade chez Carpus. Et les livres, spécialement les parchemins. Une leçon sans doute que nous devons tirer, d'abord, c'est que le chrétien est un pèlerin. Nous n'avons pas de maison ici-bas, et c'est sans doute quelque chose que nous devons apprendre tous les jours. Et nous voyons que c'était une réalité pour Paul. Il n'avait pas une maison à lui-même, il travaillait, et là il était dans la pauvreté. Il lui manquait même le manteau, peut-être pour passer l'hiver à ce moment-là. Et la deuxième chose qu'il souligne dans ce verset 13, il dit à Timothée, apporte les livres, et spécialement les parchemins. De quoi nous avons besoin? De quoi nous avons besoin comme étrangers sur cette terre? Eh bien, nous avons besoin aussi des livres et des parchemins, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et c'est tout à fait remarquable dans un petit verset qui semble peut-être qu'on peut lire rapidement tout ce qu'il nous est enseigné dans ce verset. Est-ce que nous réalisons jour après jour que nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur cette terre, que nous n'avons pas de maison ici-bas? Et l'apôtre, il avait même pas un manteau dans sa prison. Et le deuxième besoin fondamental qui est le nôtre aussi, eh bien, il demande à Timothée de lui apporter les livres et spécialement les parchemins, sans doute les évangiles, sans doute l'Ancien Testament, et les parchemins, peut-être les épîtres qui avaient été écrites à ce moment-là. Est-ce que nous mesurons l'importance de la parole de Dieu que nous avons entre les mains? Et est-ce que cette parole, la parole de Dieu, a toute autorité sur nous?
quelques exemples de piété et de contentement dans l'Ancien Testament, en Genèse, chapitre 14. Genèse 14, verset 22. Et Abraham dit au roi de Sodome, « J'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Si depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si de tout ce qui est à toi, je prends quoi que ce soit, afin que tu ne dises pas, moi, j'ai enrichi Abraham. » En réponse à ce que disait le roi de Sodome, verset 21, « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. » Et la réponse de Dieu à la piété de son serviteur, chapitre 15, verset 1, au milieu, « Moi, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Dans le deuxième livre des rois, verset 13. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, voici, tu as montré pour nous tout cet empressement. Qu'y a-t-il à faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Et elle dit, « J'habite au milieu de mon peuple. » C'était cette femme qui, avec son mari, avait fait une retraite pour le passage d'Élysée dans leur localité et qui peut dire « J'habite au milieu de mon peuple » qui se contentait de la place que Dieu lui avait donnée et qui ne cherchait pas à s'y soustraire ou à profiter des services rendus à l'envoyé de Dieu pour gagner de l'avancement social. Chapitre 5. Verset 20. Et Géasi, le jeune homme d'Élysée, homme de Dieu, dit, « Voici mon maître a épargné Naaman, ce Syrien, en ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant si je ne cours après lui et si je ne prends de lui quelque chose. » On voit qu'une personne qui était dans l'intimité d'un serviteur de Dieu voit en elle cette cupidité. Il peut dire qu'il n'a pas épargné Naaman ce Syrien. Il n'a pas tiré profit de la guérison qu'il avait apportée miraculeusement à Naaman. Il avait reçu cette puissance comme gratuitement. Et il en utilisait même pour les ennemis du peuple de Dieu gratuitement. C'est l'image de la grâce qui donne sans rien attendre en retour. Et là, on a quelqu'un dans l'entourage immédiat, comme Judas plus tard, dans la compagnie des disciples du Seigneur, qui ne partage absolument pas la piété du Maître et qui va utiliser cette position d'associé au Maître pour faire valoir cette cupidité sous un prétexte fallacieux. Quand il dit « L'Éternel est vivant », il jure par l'Éternel qu'il va demander une compensation. On voit vraiment l'illustration de ce qu'il est dit en 1 Timothée 6, que certains pensent que la piété est une source de gain ou est un moyen pour en retirer de l'avancement pour soi-même, de la gloire, de l'argent. Et la réponse d'Élisée, verset 26, nous avons lu récemment, « Au milieu, est-ce le temps de prendre de l'argent, des vêtements, des oliviers, des vignes, du menu et du gros bétail, et des serviteurs et des servantes ?» Dans le premier livre de Samuel, chapitre 24, Samuel 24, verset 10. Et David dit à Saül, « Pourquoi écouterais-tu les paroles des hommes qui disent, « Voici, David cherche à te faire du mal. Voici, tes yeux ont vu en ce jour que l'Éternel t'a livré aujourd'hui en ma main dans la caverne, et on m'a dit de te tuer, et mon œil t'a épargné. Et j'ai dit, je n'étendrai point ma main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Et regarde mon père, regarde le pan de ta robe dans ma main, car en ce que j'ai coupé le pan de ta robe et que je ne t'ai point tué, sache et vois qu'il n'y a pas de mal en ma main, ni de transgression, et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu fais la chasse à mon âme pour la prendre. Et en 2 Samuel 1, à l'annonce de la mort de Saül, verset 13, et David dit au jeune homme qui lui avait rapporté ces choses, « D'où es-tu ? » Et il dit, « Je suis fils d'un homme étranger, d'un Amalékite. » Et David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint d'étendre ta main pour tuer loin de l'Éternel ?» En lisant que la piété avec le contentement est un grand gain, on pense facilement à un gain matériel, financier. Mais là, on voit l'exemple de la piété et du contentement par rapport à la place que le Seigneur nous donne, au service qu'il nous accorde et à ce qu'il a peut-être en vue plus tard pour nous, comme David qui savait qu'il était appelé à régner, à être l'image du Seigneur Jésus sur son peuple comme ce berger d'Israël. Mais il voulait le recevoir de la main du Seigneur et non pas de la main d'un homme, ni même de sa propre main, ni même quand on l'incitait à se faire justice lui-même, à acquérir cette place qui lui était destinée. On voit toute la retenue pieuse de David et toute cette crainte de Dieu matérialisée dans le fait qu'il a épargné la vie de Saül. On voit ainsi dans ces différents exemples l'alliance de la piété et du contentement par rapport aux choses matérielles, par rapport à notre position au milieu de nos frères, par rapport à un gain potentiel. Et on voit comment le fidèle a à se comporter quand il a dans le cœur la personne du Seigneur, qui est un trésor bien plus grand que tout ce que le monde et Satan peuvent offrir.
Nous avons à plusieurs reprises abordé cette notion du contentement. Et peut-être pour les plus jeunes, peut-être s'arrêter un court instant sur ce mot. Je ne sais pas si c'est très très clair pour vous, cette notion du contentement. Enfin, on peut le lier aussi à un mot, hein, en termes de définition. Ben, si on fait un raccourci, le contentement, c'est être content dans la situation dans laquelle je me trouve. Surtout de. On pourrait aussi se poser la question, quid de la différence entre le contentement et le bonheur ? Hein, le bonheur est assez éphémère. Le contentement, c'est un état quotidien qui fait que dans les situations dans lesquelles on se trouve, eh bien, in fine, on peut dire qu'on est heureux, on est content. Et alors on a lu un passage eu égard au contentement dans les Philippiens au chapitre 4 tout à l'heure. Hein. Et je crois qu'il faut qu'on soit méfiant à un point sur cette notion de contentement. Est-ce que le contentement c'est uniquement être dans la joie quand on est abaissé ? Ou être heureux quand on est abaissé ? Ou se sentir bien, être content, être dans le contentement quand on est abaissé ? Est-ce que c'est uniquement être dans le contentement quand on a faim ? Ou est-ce que c'est uniquement aussi être dans le contentement, être content, quand on est dans les privations ? C'est un réflexe assez rapide qu'on peut avoir, hein. Si on est dans la bonne voie, alors on a faim, alors on manque et on est dans les privations. Ce n'est pas exactement la pensée du Seigneur, hein. Si on relit ce verset, on va le relire. Moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. J'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Et c'est quoi ces circonstances ? Je sais être abaissé. Oui, je sais être abaissé. Je sais aussi être dans l'abondance. Est-ce qu'on sait aussi être dans l'abondance? Est-ce qu'on se contente quand on est dans l'abondance? Dit différemment, est-ce qu'on est reconnaissant quand on est dans l'abondance? Ou est-ce que c'est un dépens qu'on a complètement zappé, mis de côté, et bon, ben, on ne le voit plus? Et le contentement disparaît. Alors on va reprendre ce verset. Moi j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toute chose, et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim. Est-ce que nous sommes dans le contentement quand nous sommes rassasiés? Ou uniquement quand on a faim? Aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Ah. Aussi bien à être dans l'abondance qu'être dans les privations. Je puis toute chose en celui qui me fortifie. Et on a un verset comme ça, je trouve assez révélateur, peut-être pour les plus jeunes aussi, qui je trouve personnellement, qui illustre bien cette notion de manque et à la fois d'abondance. C'est dans Matthieu au chapitre 14. C'est un passage qui est bien bien connu hein, de nous toutes et tous, je pense, mais allez, les plus jeunes, on l'a souvent vu en période d'école du dimanche, notamment. C'est un passage qu'on voit régulièrement. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le regarder un peu. Matthieu chapitre 14, on ne va pas tout lire. Hein, mais bon, voilà, on connaît ce passage, hein, le Seigneur qui demande de nourrir les foules. Bon, bah, y a une sacrée foule quand même, hein, bon. In fine, il se retrouve avec 5 pains et 2 poissons. Autant te dire que pour nourrir toute une foule, ça devient quand même un tout petit peu compliqué. Donc il y a du manque, hein, quand même. Hein, hein. Puis à la fin, accessoirement. Sinon, ils ne auraient pas demandé de les nourrir. Et puis, on connaît l'histoire, la fin de l'histoire. Et on va juste peut-être lire au verset 20. « Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. » Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. « Et ils ramassèrent des morceaux qui était de reste 12 paniers pleins. » Donc, un, ils avaient faim, deux, ils ont mangé, trois, il y avait 12 paniers pleins de reste. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, outre les femmes et les enfants. Le contentement, soyons vigilants, ce n'est pas uniquement être heureux ou satisfait quand on est dans des situations difficiles, c'est être capable de compter aussi tous les bienfaits de Dieu. Ne passons pas à côté de ça, il y avait 12 panier de reste.
Au verset 6, nous avons lu « La piété avec le contentement est un grand gain ». Ensuite, verset 7, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter ». La piété, en allemand, se dit « Gottseligkeit ou Gottesfurcht, ça veut dire la crainte de Dieu. Et je pense que c'est la clé de ce qui est dit aussi après au verset 7, c'est de prendre Dieu avec nous dans les circonstances et de le voir au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a donné tout ce qui nous entoure et c'est de lui que nous vient toute chose. Et le danger pour nous, c'est de vouloir acquérir, avoir des choses sans Dieu. C'est ce qui est montré aussi par après. L'amour de l'argent, au verset 10, ce que quelques-uns ont ambitionné. Et c'est pour Dieu. Pour Dieu, ça, c'est une chose. C'est un péché. Quand on voit, par exemple, ce qui est dit dans 2 Timothée, au chapitre 3, au verset... quand il est parlé des derniers jours, donc c'est les jours qui sont les nôtres, et puis il est dit, les hommes seront, le deuxième mot, avares. C'est quelque chose qui nous entoure autour de nous. Nous voyons ça, l'amour de l'argent, l'amour de posséder des choses. C'est aussi un danger pour nous. Nous voyons aussi cet aspect-là dans les Corinthiens, par exemple, 1 Corinthiens 5. Juste citer aussi ce verset. On y a aussi parlé au verset 11. Si quelqu'un appelé frère est, et ensuite le deuxième mot, nouveau avare. Je recite l'allemand, parce que en allemand c'est dit Habsucht. Ça veut dire le fait de pratiquement de vouloir posséder quelque chose, on s'efforce à posséder des choses. Et c'est ça sûrement le problème aussi pour nous, si on veut posséder des choses, mais si on n'emmène pas Dieu dans nos circonstances. Dieu veut certainement nous donner des choses, mais il faut que nous l'emmenions dans nos projets pour l'exprimer ainsi. Parce que quand on est plus jeune, on pourrait se demander, mais est-ce que Dieu, il ne veut pas que je fasse des études? Est-ce qu'il ne veut pas que je possède une voiture? Est-ce qu'il est contre que je possède une maison? Ça peut être le cas, mais ça peut être l'inverse aussi. Et donc, si nous emmenons Dieu dans nos circonstances, il peut nous donner des choses et nous le serons reconnaissants. Mais il peut aussi empêcher certaines choses et ne pas nous les donner. Donc voilà, je voulais simplement souligner cela, d'emmener Dieu dans notre circonstance au quotidien et vraiment d'attendre les choses de lui, de ne pas s'efforcer à posséder ou à recevoir des choses sans lui. Pour finir, deux versets encore. Un premier verset dans Luc. Luc 12. Luc 12, verset 15, et il leur dit, voyez et gardez-vous de toute avarice. Car encore que quelqu'un soit riche, sa vie n'est pas dans ses biens. Ensuite, verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Donc pour lui-même, j'aimerais souligner cela. Et qui n'est pas riche quant à Dieu. Ensuite, Matthieu, au chapitre 6, nous avons déjà lu dans ce chapitre, encore un verset. Verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille gâtent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni la teigne ni la rouille ne gâtent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Et dans ce même Matthieu 6, on a un peu plus loin ces passages où le Seigneur met en regard servir Dieu ou servir Mammon. Avec la suite, ne vous mettez pas en souci pour votre vie de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Le souci. Et dans notre passage, ayant le contraste est très évident, ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. C'est exactement le contraire du souci. Et puis, un petit précision, avarice, cupidité, c'est deux facettes, si on peut dire, de la même chose. La cupidité, c'est l'attirance pour engranger des richesses. L'avarice, c'est retenir ses richesses et ne pas donner. L'un, c'est vouloir amasser, l'autre, c'est ne pas vouloir donner. Garder pour soi. Et puis, on a ce verset 7 entre les deux. Nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. quelque chose de tellement simple, que chacun peut voir un petit bébé qui sort du ventre de sa maman et nu, et puis un corps mis dans une tombe, qu'importe les habits qu'il a, qu'importe s'il a des millions sur un compte en banque, qu'est-ce qu'il va emporter. Je pensais juste tout à l'heure à cette image terrible, quand les archéologues fouillent des tombes, très souvent, qu'est-ce qu'on trouve? Des tombes dans des contextes païens. Le mort, bien sûr, c'est en général le mort riche, le pauvre, il n'a pas ça. On a mis dans sa tombe, par exemple, de la nourriture pour son voyage dans la mort, des provisions, des vêtements, des choses dont il aura besoin. Mais toutes ces choses, qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Lui-même, qu'est-ce qu'il est? Il est mort. Toutes ces choses resteront là, vont être retrouvées par les archéologues, et puis c'est tout. Non. Nus, nous sommes venus, nous, nus, nous repartons. Job exprime la chose, et quelque part, ça nous remet en face de l'échelle de ce que nous sommes à la mesure de Dieu. C'est par grâce uniquement que nous sommes, je mets des guillemets, quelque chose. C'est Dieu qui nous a fait, c'est Dieu qui nous tient debout, c'est Dieu qui s'est intéressé à nous et qui nous a préparé quelque chose. Tout le reste, vu de notre échelle d'homme, nous sommes rien. La force, la capacité, les capacités qu'on peut avoir, c'est rien du tout. Tout est de Dieu. Et alors là, qu'est-ce que Paul présente? Voilà, verset 9, « Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège. Ils sont accaparés par ce souci. » Il n'y a plus de place pour Dieu, il n'y a plus de place pour réfléchir sur eux-mêmes devant Dieu. Tout est pris, ils sont pris entièrement par ces désirs, plusieurs désirs insensés, pernicieux, et qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La ruine et la perdition parce qu'ils sont complètement détournés de Dieu qui les appelle. Dieu et maman, Dieu ou maman, les deux, ce n'est pas possible. Et Dieu, c'est la vie. Maman, c'est la perdition.
Je voudrais aussi souligner le contraste que nous avons dans Tite au chapitre 3. Au verset 3. Car nous étions, nous aussi, autrefois, insensés, désobéissants, égarés et asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie. Haïssables, nous haïssant l'un l'autre. Voilà le tableau que fait Paul de notre état avant notre conversion. Et vivant dans la malice et dans l'envie. Voilà, c'est une des caractéristiques de l'homme qui est sans Dieu. Et maintenant, dans 1 Timothée 6, quelle différence, quel contraste avec le chrétien qui réalise que la piété avec le contentement est un grand gain. Et je voudrais ajouter à ce que vient de dire Jacques en particulier et souligner ce qui est dit dans la deuxième partie du verset 10. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Et avant, il nous est dit que donc qu'ils étaient tombés, verset 9, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège. Pour souligner l'importance de ces versets, c'est tomber dans un piège. Et je crois qu'on avait dit la dernière fois que le texte grec parle d'un piège comme un filet dont on a une grande difficulté à s'en sortir, à s'échapper. Et donc le bout, eh bien, c'est s'égarer de la foi et ils se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. C'est-à-dire que la foi n'avait plus de saveur ni d'attirance pour eux. C'est quelque chose que, même à des chrétiens, que un danger que nous encourons tous, c'est-à-dire que si nous avons ce désir insensé de devenir riches, hein, c'est vouloir, hein, verset 9, c'est ceux qui veulent devenir riches. Ce n'est pas forcément les riches qui veulent devenir riches, c'est pour toutes les catégories. Hein, il nous est dit, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège. Et l'apôtre Paul nous dit que nous tombons dans un piège, dans un filet, dans lequel c'est impossible ou très très difficile à s'en sortir. Et alors, la chose terrible, ils se sont égarés de la foi. C'est-à-dire que la foi en Dieu, la foi qui repose donc sur ce que Dieu nous dit dans la parole de Dieu, eh bien la foi, elle n'a plus de saveur. Est-ce que la foi a de la saveur pour nous? Et la foi peut être remplacée par ses idoles, par l'argent, par ce désir de devenir riche. Et il est ajouté, et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Et pour souligner la responsabilité personnelle, hein, c'est se sont transpercés eux-mêmes. C'est notre responsabilité de veiller. C'est notre responsabilité d'être prudent. Et donc Dieu nous avertit dans sa parole que dans de telles choses, eh bien, le risque qui est terrible, c'est s'égarer de la foi. Elle n'a pas de saveur, elle n'a plus de saveur. Et nous serons à ce moment-là transpercés de beaucoup de douleurs. Et alors, transpercés, si vous vous souvenez où il en est parlé dans la parole de Dieu, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, verset dans 30 et quelques, on peut lire, je crois que c'est 30, 35 peut-être, hein. Et même une épée transpercera ta propre âme. Et donc, nous souvenons que, bien sûr, c'est ce qui est arrivé à Marie quand le Seigneur a été crucifié. Et être transpercé, eh bien, cela nous parle de douleurs intérieures, des douleurs intérieures vives. C'est-à-dire, nous sommes transpercés. Et le danger d'avoir ce désir insensé de devenir riche, eh bien, c'est de perdre la saveur de ce qu'est la foi, nous égarer, et des souffrances intérieures vives, voilà, que nous écoutions la parole de Dieu.
See you.